Düşünün. Ok. Le pasuk di Vahi Yitzhak ben Arbaim Shana. Yitzhak Avinu avec 40 ans. Lorsque l'a épousé Rivka, le pasuk précise Bat Betuel de Padan Aram et la sœur de Lavan l'Araméen. Parce que ça fait longtemps qu'on sait que Rivka est la fille de Betuel, qu'elle habitait à Padan Aram et qu'elle est la sœur de Lavan et que Lavan est appelée l'Araméen. Alors c'est ce que le Midrash dit. Rabbi Yitzhak dit L'Elamed Shei, mais Aram Naraim, si c'est pour nous dire qu'elle vient d'Aram, Valo Kvarnemar, Mipadan Aram, c'est déjà dit au moment où Eliezer est allé chercher Rivka, on a déjà toutes les informations, on n'a pas son numéro de sécurité sociale, mais c'est tout juste. Ma Talmud Lomar Arami, alors pourquoi est-ce que c'est précisé que Lavan est en train de le dire. Pourtant, on a déjà dit Bat Betuel à Arami. On sait que Betuel était un Araméen et que donc son fils Lavan est aussi Araméen. Matalmud Lomar, Achot Lavan à Arami. Qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire ici qu'elle est la sœur de Lavan à Arami? On le sait là aussi du moment où Eliezer est venu chercher Rivka. Donc il faut dire, Ella Abba Lelamdecha, ça vient t'enseigner chez Avia Ramaï. Le mot araméen est devenu, dans le raccourci Ramaï, d'accord, c'est devenu synonyme de roublard. Donc c'est pour nous dire que son père est un roublard, son frère est un roublard, et tous les gens de l'endroit étaient des roublards. Va tzadek et azor. Mi benehem, le maïdoma. Et cette tzadeket, à quoi est-ce qu'on peut la comparer? Comment est-ce qu'on peut sortir une tzadeket comme Rivka? Issu d'une famille et d'un milieu qui est aussi pourri. Alors, on a un exemple, et c'est cet exemple qui est pris. C'est que il faut prendre ici la Shoshana ben Achochim. C'est la rose au milieu des épines. Et on nous dit que Vayeler, dans le passouk qui parle en ce moment qui a parlé de Yaakov, Vayeler Paden Aram, Ma Talmud Lomar, El Lavan Arami. Pourquoi nous dire que Yaakov est allé chez Lavan Arami? Melamed Shekulan Kalan Beramaout. C'est-à-dire qu'ils sont tous qualifiés, ils sont tous inclus dans le qualificatif Ramaout. C'était un endroit de gens complètement tous plus menteurs, plus tricheurs les uns que les autres. Alors elle est Shoshana ben Achochim, rose parmi les épines. Une rose parmi les épines, c'est une épine qui a mal tourné. Oh, elle est devenue rose. Elle n'a pas fait comme tout le monde, elle est devenue rose. C'est bon. Donc c'est ça. Ça veut dire que, à la limite, qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce qu'on a dit de plus quand on a dit qu'elle était comme une rose parmi les épines? Ça veut dire que ce phénomène-là, il n'est pas un phénomène qui n'existe que chez les humains, un phénomène qui existe dans le monde végétal aussi. Comment il peut y avoir une rose au milieu des épines? Chez les humains, vous avez une rivka dans ce milieu de Ramayine. Je ne sais pas s'il existe le pendant dans le monde animal, mais en tout cas, ça existe dans le monde végétal et ça existe dans le monde des humains. Bon, donc il s'est marié. Ils se sont mariés. Et puis, Rivka, au départ, en tout cas, elle est stérile. Et le Passouk nous dit, Vayetar Yitzhak l'Hashem le Nochar Ishto. C'est-à-dire que Yitzhak Avinu va prier. Il prie Hachem. Il prie Hachem. Et il le prie le Nochach Ishto. A priori, ça veut dire il est en face de sa femme. C'est pas qu'il prie pour sa femme. Il prie en face d'elle. Qu'est-ce que veut nous dire le Passouk en disant que il est en face d'elle. Alors le Midrash dit, c'est une machloket Rabbi Yochanan Rish Lakish. Rabbi Yochanan Amar, Sheshafach Tfilot Beosher, Rish Lakish Amar, Sheafach et Agzera, le Pumken, Karian, Le Atra, de Apir Edra. Donc il a prié Hachem. Alors il y a une machloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Le passouk dit qu'il a beaucoup prié. D'accord, il est. On peut dire comme ça. C'est un jeu de mots en quelque sorte. Parce que le Vayetar, en araméen, c'est Atar, ce veut dire riche. Donc, il y a une profusion de très riche en prière. Il y a beaucoup de prières. Rish Lakish dit, Ouafar Takzera, il a retourné le décret, le destin en quelque sorte. La prière est appelée Attard, elle est appelée pelle. C'est une pelle qu'on utilise pour retourner le blé. C'est appelé Atara. Donc, on nous donne ici une définition de la prière. Que la prière, c'est pas de demander quelque chose à Hachem obligatoirement. Il m'a pas encore donné les choses. Non, mais il s'agit. Grâce à la prière, on peut retourner la situation. Excusez-moi, il y a notre ami. Voilà. Bon, David. Bonsoir. Il a retourné une situation. On va voir vraiment qu'est-ce qu'il a retourné vraiment. Alors d'abord, le fait qu'il était le Nochach Ishto en face de sa femme. Alors ça, dit le Midrash, ça vient dire, Melamed Shehaya Yitzhak Shatuach Kan, Vishtucha Kan. C'est-à-dire, lui comme elle, il était étendu, visiblement, ils étaient couchés devant Hachem, justement. Oh, le nom, Shatuach, ça veut dire complètement étendu devant Hachem. Bon, c'est leur façon de prier là, chez eux, comme ça. Et chacun prie de son côté. Et ça nous enseigne que lui, Yitzhak, le Nochach Ishto, c'est qu'il priait en disant, Ribono shel olam, kol banim she'ata noten li yihyu min ha'tzadeket hazot. Tous les enfants que tu vas me donner, je veux qu'ils soient de cette tzadeket-là. C'est-à-dire, Yitzhak Avinu, ce n'est pas seulement le seul des avots qui n'a eu qu'une seule épouse. C'est que lui, il ne voulait personne d'autre, il voulait pas avoir d'enfant de qui que ce soit d'autre. Et de facto, il n'en a pas eu. Et elle prie de la même manière. Elle aussi, elle dit, je ne veux pas d'autre enfant que de ce tzaddik-là. Et donc, le passouk dit, il priait, Nohar qui akara hi, parce qu'elle était akara, elle était stérile. Donc, si vous voulez, c'est pas la Gemara, le Midrash, il dit, Rav Yudan, au nom de Rech Lakish, il dit que Ikar Mitrin lo avela. Ugelaf la Akadosh Baruch Hu Ikar Mitrin. En fait, quand on dit qu'elle était stérile, c'est pas qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est qu'elle était dans son corps complètement stérile. Et la stérilité absolue, si vous voulez, qu'elle avait, c'est qu'elle n'avait pas de matrice. Et qu'Hachem a dû lui greffer une matrice. On a dit la même chose sur Sarah Imenu aussi. Donc, enfin, ces deux imaot-là, ce sont des femmes. Qui simplement, c'est pas seulement qu'elles n'ont pas ou pas rapidement des enfants. Elles ne peuvent pas en avoir et n'ont pas de matrice. Donc là, c'est ça que la prière va faire dans la version de Rish Lakish. Il va retourner la situation, c'est-à-dire que cette femme qui n'a pas de matrice, elle va avoir un enfant. C'est-à-dire qu'avant de lui donner un enfant, enfin, de lui permettre d'avoir un enfant, Hachem va devoir lui greffer un utérus. Donc, si vous voulez, là, on voit très bien que les débuts du clan d'Israël, quelque part, le clan d'Israël, de cette manière-là, il devrait pas exister. D'accord? Il n'y a pas de possibilité, ni chez Abraham, au départ, ni chez Yitzhak, d'avoir des enfants avec la femme avec laquelle ils doivent construire le clan d'Israël. Mais ils tombent sur des femmes qui n'ont pas d'utérus. Donc ça dit quand même quelque chose sur le clan d'Israël. Le clan d'Israël, c'est pas un changement, et ce qui est intéressant, c'est que ce changement, il est possible par la prière. Le changement chez Sarah, il n'a pas été produit par la prière d'Abraham. Alors, par quoi est-ce qu'il a été pris? Par quoi est-ce que le changement ou la construction d'un utérus chez Sarah, il est produit par quoi? Elle n'en a pas, et brusquement elle en a. Alors bien sûr, Hachem peut faire tout ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il faut apprendre? Qu'est-ce qu'on a comme élément pour essayer de comprendre comment les hommes sont d'une certaine manière à la source. Il a fallu que quelqu'un fasse le job, quoi. Il fallait ici que Yitzhak fasse, Yitzhak et Rivka d'ailleurs, fassent le travail pour changer la destinée en quelque sorte. En français, ils ont traduit le destin, mais bon, c'est la Xéra. Il y a une Xéra d'Hachem. La Xéra, c'était que ces femmes-là n'ont pas, n'auront pas d'enfants. Alors, chez Sarah, ça se passe un petit peu différemment. Si vous vous souvenez, Sarah, elle a donné à Abraham sa servante Agar en lui donnant cette servante. Elle a voulu permettre à Abraham d'avoir une descendance. Elle a compris qu'elle n'en aurait pas et elle l'a donné. Alors, c'est intéressant parce que cette démarche-là, elle n'existe pas chez Rivka, mais elle existe de nouveau chez Rachel et Léa. Mais en fait, la démarche est complètement différente. Parce que Rachel et Léa, quand elles donnent leur servante à Yaakov, elles disent, bon, elles vont avoir un enfant avec Yaakov, mais ce sont mes servantes et c'est moi qui vais élever l'enfant. Donc elles vont, comme elles disent, je vais me construire, que la notion un ben, c'est la Shon Binyan. D'accord? Une femme avec un enfant, elle se construit. Et Rivka, pardon, et Rachel et Léa, elles se construisent parce que cet enfant-là, c'est vrai qu'il est conçu par Yaakov avec la servante. C'est la servante qui le met au monde. Mais comme le Passouk dit, enfin, Chazal l'explique, l'enfant, il va naître sur les genoux de Rachel et Léa. Et immédiatement, l'enfant, il est pris en charge et il est élevé par Rachel et Léa, comme les autres, comme leurs autres enfants. Rachel sont encore plus. Mais elle va élever l'enfant qu'Abraham aura avec Agar. Elle dit, c'est Rachi qui le rapporte, elle dit peut-être que quand Hachem verra que je suis prête à faire ce sacrifice gigantesque, faire dans mon couple une étrangère, et elle va avoir des enfants avec mon mari, hein, quelque sorte, peut-être que quand je aura pitié de moi, il m'enverra un enfant. Donc, chez Sarah, la construction de l'utérus, il a en quelque sorte été demandé par Sarah elle-même. Et chez Rivka et Yitzhak, c'est Yitzhak qui le demande. Rivka le demande aussi, mais le passouk, de façon curieuse, il va nous dire que Akadosh Baruch Hu, c'est à la tfila d'Yitzhak qu'il a répondu et pas à celle de Rivka. On va en dire deux mots. Le passouk dit Yakarahi. Rabbi Yudan de Shem Resh Lakish, Ikar Mitrin lo avele, elle n'avait pas même de matrice, et Akadosh Baruch Hu lui a greffé une matrice. Et le passouk dit, Vayater lo Hashem. Hashem a répondu à, il a répondu à Yitzhak. L'eau, la medvav. Nous, on aurait dit, vous connaissez le Rashi là, le Rashi il dit, on voit d'ici que la tfila, la prière de Tzadik ben Tzadik est plus efficace que la prière de Tzadeket bat Racha. Yitzhak, il est tzadik, ben Abraham. Elle, Rivka, elle est tzadeket bat Betuel qui est un rachat. Qu'est-ce que vous auriez dit? On dit que elle a fait beaucoup plus de travail que lui. D'une certaine manière, Yitzhak, c'est sûr qu'il a prié, mais il a vu un modèle. Il avait un père qui a prié. Rivka, elle n'avait pas de modèle d'un père qui priait. Son père était occupé à faire, à rouler les autres. Il n'était pas c'est pas un modèle de prière. Donc, je dirais que le mérite est plus grand que celui de Yitzhak. Alors, en vérité, c'est très possible qu'en termes de mérite, le mérite de Rivka soit plus grand. Mais en termes d'efficacité, la prière de Yitzhak est plus efficace. Parce que si vous voulez, c'est comme si le chemin que la prière doit fabriquer pour arriver jusqu'à Hachem, ce chemin-là, Yitzhak, il l'avait déjà. Son père avait déjà tracé le chemin. Yitzhak, il pouvait utiliser la route ici et toute son énergie était d'avancer, quoi. Il ne devait pas prendre de l'énergie pour fabriquer la route. Tandis que Rivka, il fallait qu'elle invente une route. Elle invente un chemin de la prière. Donc, on comprend que du point de vue de l'efficacité, oui, l'efficacité d'Yitzhak était meilleure parce que toute son énergie était non pas utilisée, était pas, enfin, une partie de son énergie n'a pas été utilisée pour construire la route. Alors là-dessus, ça c'est ce que Rachid dit et c'est ce qu'on peut dire éventuellement, mais le Midrash dit. Rabbi Levi Amar, Machal ben Melachim, Shaya Choter al Aviv, Litol Litra shel Zahav. Rabbi Levi, il amène un Machal. S'il amène un Machal, c'est que il y a besoin de. Il y a quelque chose de trop difficile qu'on ne peut pas dire directement, mais que on peut dire par le biais d'un machal. Pourquoi il faut pourquoi un machal? Parce que la réponse d'Hachem à la prière de Yitzhak, écoutez juste le verset, ou bien regardez le verset, ce que Yitzhak a fait, sa prière, c'est marqué Vayetar. C'est-à-dire, Vav Yud Tav Resh. Et la réponse d'elle, c'est exactement Vayater. C'est les mêmes consonnes. C'est-à-dire, si on dit que le Vayater, chez Yitzhak, c'est comparé à une pelle pour retourner les choses, alors on a l'impression que Akadosh Baruch Hu lui aussi, quand dans sa réponse, il contribue lui aussi à retourner la situation. C'est comme si pour détruire la Xéra de Rivka, il fallait à la fois le travail d'Yitzhak et aussi un travail d'Hachem, qui est le même travail que le travail de Yitzhak. C'est pour ça qu'il amène un machal, parce que c'est difficile à comprendre. Qu'est-ce que Hachem a besoin de faire un travail? D'accord? Lui, il a fait une Xéra et il permet à Yitzhak, par sa prière, d'annuler la Xéra. Pourquoi non? C'est pas ça qui est écrit. C'est écrit que lui aussi participe activement à la destruction de la Xéra. C'est pour ça qu'il dit, le machal, c'est. Bon, le machal, d'ailleurs, c'est quoi? C'est un prince, donc le fils du roi, qui fait effraction chez son père pour prendre une livre d'or. Il va piquer un lingot d'or chez son père. mais comme un cambrioleur, quoi. Il fait effraction. L'or en question, il est dans une boîte, il est dans un coffre-fort. Et lui, il va aller percer le coffre-fort. Et donc, ici, vous avez bien compris l'image. L'image, c'est la possibilité d'avoir enfin, un enfant, c'est l'or en question. Et il sera qu'il est en train d'essayer de forcer les choses pour avoir un enfant, c'est-à-dire obtenir qu'Hachem construise fabrique un utérus à sa femme et qu'ensuite sa femme puisse être enceinte. Mais le passouk dit que Hachem lui-même aussi, il aide à forcer le coffre-fort. Alors il le dit, c'est Zehaya, Zechoter mibifnim, Zechoter mibachutz. C'est chacun d'entre eux creuse, il essaie de défoncer le coffre-fort, il creuse le coffre-fort, il le force. Forcer le coffre-fort. Rotter, c'est forcer en quelque sorte ce coffre-fort. Pardon? Akadosh Baruch Hu et Yitzhak. Et donc, on dit, Akadosh Baruch Hu de l'intérieur, et il sera de l'extérieur, tous les deux travaillent pour forcer le coffre-fort. On pourrait dire, le travail d'Israël qui est de l'extérieur, ben lui, comme le travail de fabriquer les trucs. Pour fabriquer la possibilité même d'avoir un enfant. Ensuite, que Yitzhak puisse avoir un rapport avec sa femme qui puisse devenir fécondant, c'est encore un concours de circonstances, comme on dit, mais la priorité, c'est de fabriquer l'utérus d'abord. Donc ici, le passouk qui met bien en avant cette notion de ils sont tous les deux. Et là, c'est. Alors il dit, d'où tu vois cette idée d'effraction? C'est une effraction, c'est comme si, d'une certaine manière, c'est étrange. Il y a une xéra du roi, d'accord? Le roi, il a mis son or, il l'a mis à l'abri, il l'a mis dans un coffre-fort. Et donc, il s'agit d'une effraction. D'où est-ce qu'on voit l'effraction? Parce que le Midrash dit qu'il Sheken. Ben, Aravia Corinne, le Hatirata, Atirata. Parce qu'en réalité, en arabe, en arabie, en fait, le cambriolage se dit Atara. Donc c'est de là qu'on déduit, voyez, à terre, ouais, c'est cette racine de Ein Tavresh, d'accord, qui donne la pensée qu'il y a une effraction. Si on dit des choses comme ça, alors la prière qui est appelée justement, etc., donc on dit que c'est comme une pelle, mais c'est plus qu'une pelle, c'est quelque chose qui doit aller creuser. Je ne sais pas que. On retourne simplement le blé qui est là. Il faut quelque part aller. Enfin bon, il faut entrer par-dessous pour pouvoir le retourner. C'est un travail de faire émerger quelque chose. Donc ça, c'est les. Tout ça, c'est les préliminaires pour la fameuse naissance de Yitzhak, de Yaakov et de Esav. Bon, donc elle est, Akadosh Baruch Hu lui a créé un utérus, elle est enceinte. Le pasouk dit, Vaitrotsu Abanim Bekirba. Vaitrotsu. Les enfants. C'est-à-dire que le verset, il dit déjà donc que il parle du pluriel, Abanim. Donc, il dit que Rivka est enceinte de jumeaux. Ou en tout cas, au moins des jumeaux. Des plus, mais des jumeaux, en tout cas. Donc, c'est la vérité. Mais au départ, elle ne le sait pas. Rivka, tout le récit qui va venir, c'est jusqu'au moment où on va lui dire à Rivka, Shnei goyim bevitner. Elle pense qu'elle a un seul enfant. Mais le passouk dit déjà, il écrit les choses selon la vérité. Elle est porteuse de deux enfants. Et on va voir que ce n'est pas tellement évident. De nouveau, Machloket Rabbi Yochanan Rish Lakish. Rabbi Yochanan dit, Zeras la roget ze, ve Zeras la roget ze. Rabbi Yochanan, il dit, les enfants, ils se foncent l'un dans l'autre pour se tuer. Donc, ça veut dire, il y a un contentieux entre Yaakov et Esav, qui est une lutte à mort depuis le début. C'est pas devenu au fur et à mesure, à cause de la vente, à cause des brachot, etc. C'est pas du tout pour cela, d'après Rabbi Yochanan, que la lutte est à mort. Il dit de leur mère, c'était pour se tuer. Chacun voulait tuer l'autre. Rish Lakish, il est un petit peu plus léger. Rish Lakish Amar, Zematir Tsivuyo Shel Ze, Zematir Tsivuyo Shel Ze. En fait, ce mot va y trop dessous. Peut le décomposer. Va y trop dessous. Donc, il se battait, il se débattait. Mais on peut dire, va y attirer si vous y êtes. On peut arriver à. En débrouillant avec un tzaddik supplémentaire, ça veut dire que chacun veut, c'est une drôle d'expression, chacun veut être matir l'ordre de l'autre. C'est-à-dire chacun veut abroger l'ordre de l'autre. Ça veut dire chacun pense à un certain ordre du monde et chacun veut mettre fin à cet ordre-là du monde. Ils ont chacun une vision du monde et chacun veut supprimer la vision du monde de l'autre. On va dire, Jacob, il est le petit-fils d'Abraham, donc il garde les valeurs d'Abraham, d'un certain monde et un certain ordre du monde hein, en fonction de ses valeurs. Et Esav, il est contre cela. Lui veut un monde de violence, un monde de la puissance, la force qui règne dans le monde. Toute ressemblance avec la situation actuelle. C'est donc totalement purement fortuite. Bon, ça c'est la machloket Rabbi Yochanan Rish Lakish. Rabbi Brechia, le Shem la Rabbi Levi, il dit, Shelo Tomar, mi sheyatsa mi me'e imo, nizdaveg lo. Ela ad sheu beme imo, zirte mitucha le kabale. Là où dirtiv, c'est ce qui est écrit dans le Tehilim, Zoro Rechaim Mirechem. Alors, le Rav Brachia, au nom de Rav Lévi, il dit, est-ce qu'on peut dire que Esav s'en est pris à Yaakov seulement après la naissance? Quand ils sont sortis des entrailles de leur mère, c'est pas du tout comme ça. Déjà dans le ventre de sa mère, il levait le poing contre lui. C'est pour ça qu'il cite verset de Tehilim, il dit que les méchants sont pervertis dès le sein de leur mère. Les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Donc les méchants, c'est déjà à l'intérieur. Les menteurs, c'est seulement après la naissance. Alors, Abrechia, il introduit ici une nouveauté en quelque sorte, parce que Rabbi Yochanan et Reish Lakish, il présente la guerre ou la bataille dans le ventre de la mère comme étant purement tout à fait symétrique. On ne dit pas que c'est Ésaü qui est le méchant et qui attaque Yaakov. Chacun d'entre eux voulait ou tuer l'autre ou abroger l'ordre de l'autre. Mais c'est présenté chez Rabbi Yochanan et chez Reish Lakish comme étant complètement symétrique. Rabrechia, et tout à coup, il sort, il dit, ah, c'est Esav on voit que Esav voulait attaquer Yaakov. Alors, pour Rabrechia, comme c'est marqué au pluriel, va être au-dessous, c'est le verset là, il permet pas, et on n'entend pas qu'il y ait quelque chose de dissymétrique, donc il faut dire, peut-être, ils se battent l'un contre l'autre, mais lui, il introduit celui qui commence la bataille, celui qui veut lutter, c'est ça. Alors que Jacob va lui répondre et il va vouloir le tuer aussi, le cas échéant, le tuer parce que, ah bah, le Orgecha, celui qui vient pour te tuer, alors lève-toi et tue-le d'abord, ne te laisse pas faire. Mais ça, c'est Abraham Brechia, comme vous voyez, c'est pas du tout la même chose que Reish Lakish et Rabbi Yochanan. Alors, il y a une autre explication sur le mouvement, tel que c'est décrit, par les trois opinions, là, Rabbi Yochanan, Reish Lakish et Rav Brechia, c'est des batailles. Il y a une autre lecture. L'agitation qu'il y a dans le ventre de Rivka, elle n'est pas due à une bataille. Bécha she'aita Omedet al batei knesiot ou batei midrashot. Yaakov mefarkes latzet adaw dirtiv beterem etzorcha babeten yedaticha. Ubisha she'aita overet al batei avodat kochavim, esav ratz umefarkes latzet. Odaou diftim, zoru reshaim mirechem. Donc, il y a une autre explication qui est peut-être aussi celle de Rav Brechia, puisqu'il utilise le même passouk de Tehilim, et qui dit la chose suivante. Alors, si vous regardez bien dans le texte du Midrash, ou si vous écoutez bien, il dit comme ça. Donc, on parle de nouveau toujours d'une autre lecture du fait que les enfants va être au-dessous Bekirba. Donc, les banim se bougent. Alors, pourquoi ça bouge? Parce qu'ils se mettent en marche, au sens où, quand elle passe devant des temples idolâtres, alors Esav s'agite pour sortir. Je sais toujours le verset que les méchants, dès le sein maternel, ils sont déjà méchants. Et quand elle. Alors, ils ont traduit ici qu'elle passait, mais en vérité, si on regarde le texte, et le texte dit pas exactement ça, dit Bechash et Aïta Omedet al Batek Nesiot ou Batek Midrashot. Donc, le verset il dit que par rapport aux synagogues et aux maisons d'études, comme on dit, là-bas, c'est marqué que elle était arrêtée. Alors que dans les temples idolâtres, elle passait devant. Mais Omedet, c'est dit sur le positif, quoi, et Overet, sur le négatif. Ici, dans le français, ils ont utilisé les mêmes verbes. Mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas la même. Donc, elle-même, elle avait. Elle privilégiait la fréquentation, si on parlait comme ça, de la proximité, en tout cas, pour écouter la tfila, ou c'est théorique, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de synagogues à ce moment-là. Donc, c'est une façon de parler, quoi. Ça veut dire qu'ils étaient déjà attirés chacun pour soi. Comme le passouk dit dans le Navi Yirmiya, il dit au clan d'Israël, avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Avant la Yetzira et Tzorcha, avant que je t'ai formé dans le ventre de la mère. Ça veut dire, au moment de la conception, je connaissais déjà. On sait déjà, on dit très bien que beaucoup, qu'on prend une goutte de semence et on dit qu'est-ce que ça va donner, est-ce qu'il va être sadique, est-ce qu'il va être rachat, etc. Donc, il y a déjà quelque chose qui se décide, si on peut parler comme ça, au moment de la conception. Alors, elle, quand ces choses-là se font, donc elle, contrairement à ce que dit le passouk qui parle de Banim, faut penser, Rivka, elle pense qu'elle a un seul enfant. D'accord? Elle a un enfant, donc elle voit que il est aussi bien attiré par la Avodah Zarah que par la Torah. Donc il est à 50-50, son enfant. Elle dit alors, si c'est ainsi, pourquoi ça m'arrive-t-il? Si c'est pour mettre au monde un enfant qui soit 50-50, pourquoi ça m'arrive ça? Dans ce cas-là, je préfère, comme le dit Afraga au nom de Rabbi Yitzhak, le passouk vient de te dire que pour t'apprendre que Rivka se rendait à la porte des autres femmes et leur demandait, avez-vous jamais ressenti pareille douleur? Si telle est la souffrance de l'enfantement, mieux eût valu que je ne tombe jamais enceinte. Il dit non, c'est tel qu'on peut le traduire comme ça. Il s'est dit, bon, c'est trop douloureux. La limite, pourquoi m'avoir fait tellement de miracles, me construire un utérus, etc. On ne sait pas qu'elle en est constante, consciente, mais si c'est pour souffrir pareillement, non. Donc ici, l'accent est dit sur la forme, sur la souffrance. C'est un peu. La vérité, c'est que dans le texte lui-même, on ne sait pas pourquoi elle dit ça. Le verset dit, Batomer, Imken, Lamazé Anochi. Si c'est comme ça, alors pourquoi ça m'arrive? Alors, Rabbi Yitzhak dit, Sheaita, Imanu Rivka, Imenu Rivka, pardon, Razeret Alpitrazé, Bebimechem, Imkahu Tsaran Shel Banim, Alvaï. Donc, c'est vraiment une interprétation de Rav Chagai au nom de Rav Yitzhak. C'est vraiment en termes de souffrance, en termes de douleur. Les douleurs sont insupportables. Ça, c'est une des explications de Imken. Mais Ravuna, il dit non. Ravuna Amar, Imkach ani atida le'amid 12 shvatim. Alvaï lo avarti, lo ibarti, pardon. Minyan zé, minyan, parce qu'elle dit, lama zé plus 5, c'est 12. Donc c'est ça le minyan de si. Alors, elle dit comme ça, si je dois avoir 12 enfants comme celui-là, on préférerait pas être enceinte. De là, on entend, hein, qu'il y a un problème avec les 12. Jusqu'à présent, on n'a pas entendu dans la Torah, c'est une yin de 12. D'où il vient, c'est une yin de 12? Alors, il va y avoir un autre verset à partir duquel on pourra aussi déduire 12. Enfin, celui-là, il est très parlant. C'est pas le seul endroit où on dit que Zé veut dire 12. Il y a d'autres endroits. Alors maintenant, à tout ce inyan de 12, alors on va voir quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un enseignement qu'on a donné au nom de Rav Nechemia qui dit Reuya, Psikta, parfois Zapor et Tankouma. Ok, bien. Alors, Rav Nechemia, il dit, Reuya Aïta Rivka. Rivka, elle était Raoui, ça veut dire elle méritait, elle était adéquate. Chez Yamdou Mimena Yudbet Shvatim. Qu'elle donne naissance aux 12 tribus. Comme c'est marqué dans le passouk, Vayomer Hashem la shne goyim bevitner. Marqué effectivement Il y a deux peuples dans ton ventre. Ah, donc le Midrash, il va construire 12 avec tous les versets qui ont été dit à ce moment-là à Rivka. Quand on lui dit Shnei Goyim Bevitner, on est à deux. Ou Shnei Leumim, et deux peuples, ça fait quatre. Ou Leum mi Leum Yematz, ça fait six. Rav Yavod Tsaïr, Rav et Tsaïr, encore deux de plus, ça fait huit. Vaim Yamea la Ledet, c'est le pluriel, c'est au moins deux. Ça fait 10. Admoni Achadassa. Le premier est sorti, tout rouge. Ça fait 11. Et Achim. Ça fait 12. Puis son frère, Jacob, est sorti. Ça fait 12. Donc c'est une autre façon d'arriver à 12. Ou bien c'est dit dans le Zé. Ou bien c'est construit avec le nombre de, disons le, justement, tous ces ignames du double. Toujours une chose et son contraire, ou son opposé, ou son complément. Bon, il rend compte de, justement, de la paire de jumeaux. Ils vont être à la fois des opposants et aussi un peuple contre l'autre, hein, etc. Et donc, on nous parle de ce que Rivka aurait dû être. Raouya, donc, elle aurait dû être la matriarche qui met au monde les 12 tribus. Donc, si c'était comme ça, on aurait eu deux patriarches, pas trois. Bon, puisque elle aurait mis au monde les 12 tribus, mais après, les tribus, c'est plus les patriarches. Les tribus sont les tribus. Patriarches, c'est seulement avant les tribus. Donc, en vérité, il faut comprendre comment se fait-il, puisque Rivka était Reuya, comment se fait-il qu'on n'a pas eu 12, elle n'a pas eu 12 garçons, 12 tribus. Pourquoi il y en a un 13, il y en a un 13e, et que ce n'est pas elle qui aurait été Mamise. Ce n'est pas elle qui a produit les 12 tribus. Ce sont qui? Ben, ce sont ses nièces. D'accord? Rachel et Léa, c'est les nièces de Rivka. Rivka, elle a un frère, Laban, qui lui a deux sœurs, a deux filles. D'accord? Ces deux filles donc, sont donc les nièces de Rivka. Et même les servantes, dont on dit que sont des enfants des concubines de Lavanne, mais elles sont aussi donc des demi-sœurs. Donc elles aussi, quelque part, c'est aussi d'une certaine manière des nièces de Lavanne. Donc des nièces de Rivka parce qu'elles sont des filles de Lavanne. Donc, ce sont quatre nièces de Rivka qui vont être Maamit, les 12 tribus, et pas Rivka. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est justement ce qui nous est raconté là. Ce qui fait, si vous voulez, bon, on va d'abord lire ce que le Midrash dit. Donc, on a ce Midrash dont on a lu avec lequel on a fabriqué le chiffre 12. Alors, après avoir dit la chose comme ça, le Passouk dit Ve'it demaitin le minadin kra. ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? זין שבעה, ה' חמישה, à Trinassa. Donc, il le redit clairement, d'accord? D'autres disent que le 12, il vient pas de ces 6 fois 2 versets, mais il vient de Zé, c'est-à-dire Zain qui vaut 7 et Ré qui vaut 5. Minaï Zé, c'est-à-dire d'où sait-on cela? Matelech Lidrosh et Hachem, d'où on sait qu'elle était porteuse des doutes. Elle est allée Lidrosh et Hachem. Quand elle s'est aperçue qu'elle avait quelque chose que les autres femmes n'avaient pas, c'est-à-dire en termes de douleur, etc., et de manifestation de cet enfant qui réagit qu'on passe devant un Beth Amidrash ou qu'on passe devant un temple idolâtre, à chaque fois il réagit. Elle est allée demander une explication à Hachem. Mais on ne peut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Kri bate knesiot ou bate midrashot ayu beotan ayamim? Et le midrash dit, mais il n'y avait pas ni de synagogue, ni de Beth Amidrash à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ça veut dire que d'aller interroger dans une choule, synagogue, ou d'aller interroger dans un Beth Amidrash, ça pose aucun problème. Ça s'appelle l'Hidrosh et Hachem. L'Hidrosh et Hachem, c'est pas obligatoirement aller consulter un prophète. Tu vas interroger dans une synagogue, là on peut peut-être dire on parle avec Hachem. Et dans le Beit HaMidrash, tu parles avec les Talmidei Chachamim. Ça s'appelle l'Hidrosh et Hachem. Alors on répond, on veut allô, l'o, alcha, ela, le Midrash, c'est le Shem Ve'ever. Elle est allée que dans l'école de Shem Ve'ever. Elle allait la mettra, et donc ça vient apprendre, chez Kolmi, chez où Magbil pnei zaken, que Magbil pnei shchina. Toute personne qui consulte, enfin, un ancien, c'est comme s'il consultait la présence divine. Et Ever, c'est un ancien. Donc, elle est allée consulter. Donc, elle a posé sa question, pourquoi ça arrive? Et le passouk dit qu'Hachem lui a répondu. Voyez? On dit Hachem a répondu. Qui est-ce qui lui a répondu? C'est Ever qui a répondu. Quand Ever répond, ça s'appelle Hachem répond. Simon, le Rabbi Yochanan, Hachem Rabbi Lezer, Rabbi Elazar, Rabbi Simon, ils disent, il y a un problème ici. Le passouk, il est en train de nous dire qu'Hachem a parlé à cette femme. Il a parlé à Rivka. Leur problème, c'est pas. Mais c'est Ever qui a parlé. Mais la Torah, elle dit que c'est Hachem qui a parlé. Alors ils disent, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Mais Olam lo niska kakadosh baruch hu le'asiyah imisha. Jamais Akadosh Baruch Hu n'a parlé à une femme. Sauf Ella imota tzadeket. Sauf avec cette tzadeket-là, la tzadeket, comment s'appelle? Sarah. La seule avec laquelle il a parlé, Hachem a parlé, c'est Sarah. Veafhi al-yedei Ila. Et même avec elle, c'est un prétexte. Ça veut dire, Rabbi Abba Bar Kahana Amar, Kama tirkurin tirkar bishvil la'asiach ima. Sheneimar vayomer lo ki tzachakt vaktiv vatikra Shem Hashem, attendez, lo ki tzachakt. C'est-à-dire, et Akadosh Baruch Hu, il a fait toutes sortes de circonvolutions pour parler avec elle. Parce que il a utilisé le prétexte de pourquoi tu as ri, quand les anges ont dit qu'elle serait enceinte, elle a ri. Et alors, Hachem a dit à Abraham, dis-moi pourquoi elle rit, ta femme. Alors, Abraham lui a demandé tout ça pour lui parler. Et donc, on a un enseignement de Rabbi Elazar Rab Shimon. Rabbi Elazar Rab Shimon, c'est Rabbi Elazar, le fils de Rab Shimon Bar Yochai. En direct du Zohar. Hein. C'est important. Alors, ils ont dit, c'est pas possible. Comment c'est possible qu'il a parlé avec elle? Hachem a parlé avec une femme. Réponse de Alors, avant de l'expliquer, c'est qu'en vérité, on a une autre occurrence. C'est marqué, Vatikra, Shem Hashem Adover Eléa. Et Rab Lévi répond, Shem Rabba Bar Chama, Bar Chanina, Amar Al Yedei Malach. Qui est-ce qui parle comme ça? C'est Agar. Hashem a parlé avec Agar aussi. Il a répondu non, c'est par le biais de. Il y avait un malach qui lui a parlé. Alors, ok, d'accord. Alors maintenant, explique-moi. Là aussi, Rabbi Elazar Amar, allez de Hachem, Ben Noach. Hachem lui a parlé, il ne lui a pas parlé directement. Hachem lui a parlé à travers ou par l'entremise de. Shem ben Noach. Donc c'est Shem qui lui a parlé. Et ça s'appelle que Shem lui a parlé. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit Shnei goyim bevitnech. Il y a deux peuples dans ton ventre. Donc c'est seulement là que Rivka apprend qu'elle a des jumeaux. Et le problème, c'est que Shnei Goyim Bevitner, vous avez un chumash, et vous voyez que ce n'est pas écrit Goyim normalement. Il n'y a pas de vav dans Goyim. Donc ça se lit chez Geyim. Shnei Goyim Bevitner. C'est-à-dire deux orgueilleux. De grands personnages qui sont. Zemit Gaé Beolamo et Zemit Gaé Bemalchuto. Il y en a un qui s'enorgueillit dans son monde et l'autre dans son royaume. Shnei Goyim Bevitner, Adrianus Beovde Kochavim, Adrien, l'empereur Adrien chez les idolâtres. Et Shlomo b'Israël est le roi Shlomo b'Israël. C'est là les deux grands bons hommes. Voilà, c'est ça qu'il y a dans ton ventre. D'autres termes, il va parler de Rome, Elle est venue Israël. Donc, elle est porteuse. Tu n'es pas porteuse seulement. C'est une matriarche du clan d'Israël. Mais elle n'est pas porteuse seulement d'un patriarche du clan d'Israël. Elle est porteuse aussi des grands personnages, des Romains. Elle, c'est dans son ventre. Avraham Avinu, on dit, Hachem lui a dit, quand il lui a changé son nom, il lui a dit, tu es Av Hamon Goyim. Tu es le père d'une multitude de peuples. Et Avraham Avinu, quand il descend après la Akedah, il va, et Yitzhak, il va lui amener Agar. Si on dit Ktura, c'est Aga, ou sinon c'est Ktura, et Avram va avoir une flopée d'enfants avec Ktura Aga. Donc il est aussi l'ancêtre de beaucoup de peuples, pas seulement d'Ishmaël, mais encore d'autres peuples qui sont les descendants qu'Avram, à la fin de sa vie, va envoyer vers l'Est. Il va les éloigner au maximum de Yitzhak. Mais ça, c'est lui qui a mis c'est une femme, mais c'est Agar, ou Keturah, qui porte ses enfants. D'accord, il est le géniteur, mais enfin, c'est dans son propre ventre. Dans le ventre de Rivka, et la deuxième matriarche, tu as deux Géim Bevitner, deux peuples. Potentiellement, tu portes Adrien, l'empereur Adrien et le roi Salomon. Y a une autre lecture qui dit Zemitgae, pardon, Jnegei Goim, Bevitner, Adrianus, Peuvde Kochavim, ah non, Shomo d'Israël, Davaracher, pardon, Jnegei Sonei Goim, Bevitner. Il y a dans ton ventre deux peuples détestés par tous les autres peuples. Ici, c'est construit sur Shnei, ça sonne comme sonner. Des personnes haïes, des peuples haïs. Kol ovdei kochavim sonim et Esav. Tous les goïms haïssent Esav, le kol haovdei kochavim sonim et Israël. Il y en a deux qui font le. Ils sont les deux peuples haïs dans le monde. C'est Esav et Yaakov. En tout cas, ce qui est remarquable, bon, c'est ce dont on vient de parler ici, c'est qu'il lui a dit, Snehon d'Ivnaya, et Maïr, Maïr, il y a les ennemis de tes enfants dans ton ventre. C'est marqué dans le passouk, c'est un passouk dans Malachi, Vet Esav Saneti. Alors, c'est un peu étrange, parce que ce passouk, c'est Hachem qui dit, j'ai haï, c'est dans Malachi, ouais. Il a dit, j'ai haï Esav, j'ai haï Esav, j'ai aimé Yaakov, et j'ai haï Esav. Qu'est-ce qu'il apporte ce verset pour dire quoi? Pour dire que Tu portes en tes entrailles les ennemis de tes enfants. Mais en quoi le verset qui dit que Hachem dit que j'ai de la haine pour Essam? Comment est-ce que ça peut être un verset qui vient illustrer que tu portes dans ton ventre les ennemis de ton peuple? C'est Hachem qui dit qu'ils sont les ennemis, que lui, il les haïsse. Il les haït. Hachem est, il est, pardon, il est il est Esav. Tu portes dans ton ventre Esav. Il est haï par Hachem. Il est haï par Hachem. Alors, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'il est haï par Hachem qu'il, en retour, Esav va haïr les Bnei Israël? Ou bien est-ce qu'il est haï par Hachem parce que ça hait les Bnei Israël? En tout cas, là, parce que si on lit comme ça, on peut comprendre en quoi le verset est une preuve de ce que elle porte en elle. D'accord? Puisqu'Hachem dit clairement qu'il a de la haine pour Essav, et toi tu portes Essav dans ton ventre, il faut comprendre pourquoi Hachem aurait-il de la haine, Stam, pour Essav? C'est parce que Essav a de la haine pour tes enfants, pour les Bnei Israël. Comme ça, je crois qu'il faut comprendre le verset de Malachi. Donc on a cette situation terrible, pas, que Rivka, elle porte en elle, et ça aussi. Celui qui est l'ennemi juré, d'après les premiers mots qu'on avait expliqués, celui qui a à l'égard des enfants de... C'est compliqué. Il dit, tu portes en toi les ennemis de tes enfants. Non, elle porte les enfants, mais l'ennemi de l'enfant, c'est aussi son enfant. Et ça, mais aussi l'enfant de Rivka. Alors la phrase, les ennemis de tes enfants, c'est une phrase qui est difficile de l'appliquer à Essav. Essav, c'est son enfant. Pardon?
Avec le verset de Malachie, ça va bien. Parce que Marie, j'ai aimé, j'ai aimé ça.
Mais où est-ce qu'on voit? Tous les deux sont ses enfants, c'est difficile. Elle-même, Rivka, elle va dire, quand elle ne veut pas qu'ils se battent, tous les deux, elle dit, Lama eshkol gam shnechem beyom echad. Donc, parce que je vous perdrai tous les deux le même jour. Dans l'histoire de quand Esav vient s'opposer à l'enterrement de Yaakov. C'est un petit peu compliqué. On comprend ce qu'il veut dire, mais si on regarde le passouk est. C'est un peu compliqué à entendre. En tout cas, il y a ce paradoxe. Effectivement, elle porte aussi les ennemis, comme si, au fond, la lutte entre Yaakov et Esav n'est pas vraiment une lutte entre le peuple d'Israël et quelqu'un qui est foncièrement en dehors. C'est pas vraiment un étranger qui attaque. D'ailleurs, je crois que c'est dans le Zohar, mais je ne suis pas sûr que ce n'est pas aussi dans le Midrash, que on parle de Sav en disant Israël Moumar. D'accord? Lui aussi s'appelle Israël, mais Israël Moumar. Israël est hérétique, quoi, quelque part. Mais c'est un Israël. Comme si on disait Israël Afalpi Shechata Israël ou. Tu le savais.
Rav?
Oui.
Mais on a l'impression que là, ça apparaît comme une nécessité. C'est-à-dire, c'est impossible, comme si c'était impossible qu'il y ait Yaakov sans Essav.
Bien compris.
Bon, on a l'impression dans ce que vous dites que comme elle porte les deux enfants, et que on a l'impression que c'est une nécessité ça apparaît, enfin moi ce que j'entends, c'est que ça apparaît comme une nécessité qui est presque antagonisme pour qu'il y ait un ou l'autre. Ils ne peuvent pas être dissociés, en fait. Enfin, je sais pas, c'est une remarque comme ça, hein, mais.
Non, mais il est bien évident que si Rivka porte les deux, c'est la volonté d'Hachem.
Oui.
Elle porte les deux. Ça veut dire qu'en fait, le clan Israël et Esav, son ennemi, c'est en fait, on est de nouveau dans un fratricide, enfin, un essai de fratricide. On remonte à Caïn et Abel, quoi. Là-bas, ça avait marché, ici, mais ça ne va pas marcher. Là-bas, Caïn avait vraiment tué Abel, et ici, Ésaü qui veut tuer Jacob, mais finalement, il ne va pas le tuer. C'est-à-dire que Jacob a accepté d'être tué économiquement. Bon, quand Eliphaz a rattrapé Yaakov, qui lui a dit, je suis venu te tuer par honte de mon père, et que Yaakov lui a dit, mais ok, c'est bon, mais t'es pas obligé de me tuer au sens habituel du terme, tu peux me tuer économiquement. Ça s'appelle aussi une mort. Et quand j'ai déjà dit plusieurs fois qu'on voit nulle part qu'Hachem ait fait, que Esav ait fait des reproches à Eliphaz de ne pas avoir crucider complètement Jacob. Ok. Quand tu l'as tué économiquement, c'est déjà bon. Et on sait que ça a eu effectivement des conséquences faramineuses. Tout le rapport avec la est complètement différent. Et tout ça, c'est complètement différent parce que quand Jacob arrive, il est économiquement mort quand il arrive chez Laban. Et en tout cas, voilà, elle porte, c'est ça le paradoxe, elle porte aussi l'ennemi de tes enfants. C'est aussi toi qui va le mettre au monde. C'est toi qui le portes.
Rav, au début, là, dans la marloquette entre Rabbi Yochanan et Reish Lakish, j'ai pas compris, en fait, on n'a pas expliqué tellement ce que dit Reish Lakish, mais je me demandais si ça pouvait pas rentrer dans cette idée d'antagonisme, c'est-à-dire que Zematiro chez Zematir.
Non, c'est
Qu'est-ce que ça
trompeur
veut dire?
symétrique. Ça veut dire, ah, ça veut dire chacun a un ordre du monde, chacun imagine un certain monde, le monde des valeurs de Jacob, le monde des valeurs d'Abraham, et le monde de la violence, de la force, qui est le monde d'Ésaü. Chacun veut empêcher l'autre de faire en sorte que le monde soit comme lui il le veut.
Mais qu'est-ce qui a créé ça, en fait?
Ah
C'est-à-dire,
bon?
d'où ça vient cette complexité
Ça, on ne sait pas. Personne ne nous dit d'où vient le Vayetrotsutsu. C'est comme ça, c'est leur nature. Tu peux dire que c'est le projet divin, comme ça, que ce soit comme disait Bernard, parce que c'est une nécessité. Il faut qu'il y ait cette. cette opposition pour que la Torah prenne sa vraie valeur, il faut qu'on connaisse l'archi négatif pour pouvoir apprécier les valeurs de la Torah. Et c'est pour ça, c'est fondamental. C'est pourquoi est-ce que le monde, au moment de la création du monde, pourquoi il y a un rocher qui, lui, n'a jamais été créé, mais qui est là, avant la lumière. Et la lumière, elle doit être créée. Je pense que c'est le même ordre.
Verset, mais dans ce coup, ça apparaît comme devar veipucho, en fait. Comme un mot qui veut dire l'un et son opposé.
Pas compris ce que tu as dit. Pas compris ce que tu as dit, merci.
D'un seul coup, ça apparaît comme dans le langage qu'on dit en hébreu, on dit devar veipucho. Une chose et son contraire, et c'est le même mot.
Mais non, ça existe effectivement. C'est des mots, enfin, le même mot ou un mot très proche, effectivement, donne les deux. Une chose et son contraire. Bon, peut-être effectivement, on a besoin de. Peut-être que Essav, c'est un faire-valoir pour Hachem, enfin pour Israël, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça les données de base. Mais les données de base, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que l'ennemi d'Israël est extérieur. Il est aussi intérieur que possible. Quand, en fait. Bon, d'après la description, la Torah, elle fait pas ce distinguo, mais d'après la description que nous avons, c'est pas des vrais jumeaux. C'est des faux jumeaux, les deux, là. Ils sont tellement différents, c'est difficile d'imaginer que ce soit des vrais jumeaux. Même, bon, physiquement, c'est peut-être pas possible, je sais pas.
Mais qu'est-ce que
Mais,
ça changerait que ça soit des que ça
non,
soit
mais je...
précisé, soit des vrais ou des faux?
Dans l'idée, bon, si c'est des faux jumeaux, alors c'est quand même deux entités distinctes. Elles sont dans
Oui,
le même
voilà, mais.
ventre, mais c'est deux entités qui se développent en parallèle, mais tandis que sinon, c'est deux moitiés, quoi, quelque part. Et comme la Torah, elle veut les voir comme des jumeaux tout court, donc elle les voit comme deux moitiés.
Mais peut-être que justement, le fait que ça soit des faux jumeaux, ce qui est important, c'est que ça soit des faux jumeaux, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment, que ça soit porté par la même matrice, mais qu'il soit pas identique, identique.
C'est quand même étonnant, si on peut parler comme ça, que la différence existe déjà quasiment depuis la conception. C'est pas dû à la naissance, même pas dû au phénomène de naissance. Même si on disait que, voilà, ils se sont disputés pour savoir qui allait sortir le premier, disons. Non, ça s'est déjà fait avant. Bien, ça a l'air très essentiel. Voilà, on va s'arrêter là. On continuera la prochaine fois, bien sûr.